Bonsoir à toutes et à tous, très chers amis de Radio Merguez & Co. Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur Barbecue Vélo. Merci à tous d'être présents ce soir pour regarder la magnifique émission qui arrive. Merci à ceux qui nous écoutent en podcast tout à l'heure, bien sûr. Bienvenue à vous. Merci à vous de nous écouter, toujours fidèles au poste. Et donc, bonsoir à tous. Parlons vélo, c'est le retour de Barbecue Vélo après la première émission, la deuxième cette fois-ci. Et cette fois-ci, le casting s'agrandit. Avec le grand comeback de nos chroniqueurs préférés, je parle bien sûr de monsieur Charlie 91. Bonsoir Charlie.
Bonsoir à tous et heureux de vous retrouver.
Comment ça va mon Charlie ?
Eh ben écoute, comme chaque début de saison, il faut un petit peu de temps de rodage. Hein, je suis un peu plus âgé, donc je suis un peu diesel, donc ça va, je pense, aller pour cette deuxième émission avec vous.
Oui, ah bah c'est super, on est très content de te retrouver. Comment ça va? Quoi de neuf? Qu'est-ce que t'en as pensé là, de cette petite semaine vélo là?
Bah, c'est quand même une semaine vélo qui part sur les chapeaux de roue. Hein. On voit des courses très animées, déjà beaucoup de leaders et d'équipes du World Tour bien en jambes, et puis des surprises aussi qui font plaisir. Donc on va pouvoir analyser tout ça ensemble.
Et oui, mais bah merci à toi d'être présent pour ce nouveau Barbecue Vélo. Alors, nous ne vous promettons rien, mais normalement notre chroniqueur de toujours, Thierry Ladan, sera parmi nous, mais il a quelques problèmes de connexion, donc il va rejoindre l'émission en cours de route. Et si éventuellement il ne peut pas venir, eh ben on le salue très fort, on lui fait des grosses bises. Hein. S'il nous écoute en podcast tout à l'heure, eh ben écoutons lui. On pense fort à toi, Thierry, et merci quand même d'essayer d'être présent. Bon, sinon bah passons au vif du sujet. Il y en a des choses à dire de ce que je vois, et on va commencer par les impressions de la semaine. Donc on va commencer par et même des deux semaines vu qu'on a un petit peu de retard. On va un petit peu parler de nos impressions des deux semaines vélo qui ont lieu. Et puis on va commencer par toi, mon cher Charlie. Qu'est-ce que tu as retenu de ces deux semaines de vélo avec les courses World Tour au programme? Ah, on ne t'entend pas.
Ah ben oui, si je mets pas le son, évidemment, ça ne peut pas aller. Je disais les courses World Tour, mais pas seulement. En fait, je note deux bonnes surprises françaises. La première, d'ailleurs, on le voit encore autour de Catalogne actuellement, c'est Lenny Martinez qui s'accroche et que je trouve vraiment au niveau pour se battre avec les meilleurs en montagne. Il s'arrache. Encore, ça a été le cas pour cette seconde arrivée au sommet en Catalogne. Et puis Paul Lapeyra, qui n'a pas brillé sur des courses World Tour, mais qui a gagné deux victoires consécutives de deux manières différentes en fait dans l'ouest de la France. Donc c'était vraiment très sympa de le voir, de voir Paul Lapeyra chez l'équipe Decathlon à un niveau qui lui permet quand même de gagner les courses. Donc pas de choses à relever encore sur le niveau World Tour, mais voilà, de dire qu'on a des jeunes Français qui sont dans le match pour gagner ou être présents à différents échelons, et ça fait vraiment plaisir.
Oui, c'est vrai, ça fait plaisir à voir que les Français sont présents ce soir. Sont présents, sont en rendez-vous sur les courses. On en a vu pas mal, c'est vrai, essayer de se mettre en valeur. Bah moi, ce que je vais retenir, c'est le nom de mon pseudo, qui est assez significatif, Julien Alaphilippe. Et ben moi, je vais retenir une bonne nouvelle. C'est la 9e place de Julien Alaphilippe, qui finit 9e de Milan-San Remo, et qui, s'il n'avait pas eu une crevaison au dernier kilomètre, aurait même pu jouer mieux, peut-être le podium. On connaît ses capacités au sprint. Moi, je me souviens, avant qu'il remporte cette course, de ce magnifique sprint avec Michel Kwiatkowski et Peter Sagan sur la Via Roma, avec Michel Kwiatkowski qui s'est imposé, mais ce magnifique sprint entre ces trois grands coureurs. Et donc Julien Alaphilippe qui montre qu'il est là, à l'inverse de le Français qu'on attendait peut-être plus, Christophe Laporte, sur un profil qui lui convenait assez bien pourtant. On en reparlera plus tard, mais il lui aura peut-être manqué un petit peu de fraîcheur. Voilà. Alors vous pouvez voir en bas de votre écran le programme de la soirée. Donc on va commencer par débriefer le premier monument de la saison, Milan-San Remo. Milan-San Remo, donc la classique la plus longue du calendrier World Tour, presque 300 km de dur labeur, plus de 6 heures de course, et avec au final enfin le retour de la victoire d'un sprinter, Jasper Philipsen. Ça faisait longtemps qu'un sprinter, entre guillemets pur, vu que Jasper Philipsen a quand même quelques petites facilités dans les bosses, on va dire, il arrive à tenir le coup. Mais voilà, ça y est, enfin le retour des sprinteurs qui peuvent remporter cette classique et ce monument. Et bah, Jasper Philipsen l'a montré. Et est-ce que pour toi c'est une surprise? Est-ce que t'attendais pas un autre coureur, Charlie? Parce qu'il y avait quand même un sacré plateau autour de ce Milan-San Remo. Il y avait même mieux, il y avait son coéquipier Mathieu Van Der Poel qui était annoncé comme le grand favori. Qu'est-ce que t'en penses, mon Charlie?
En fait, je trouve que sur ce Milan-San Remo, on a pu voir vraiment l'étendue de la classe de Philipsen. L'an passé, n'oublions pas, lors de la montée du Poggio, il était déjà présent parmi les tout meilleurs. Il aide à un moment Van Der Poel à créer une cassure, me semble-t-il. Enfin, en tout cas, il est pas très loin de la gagne. Puis il termine deuxième de Roubaix aussi dans la foulée. Mm-hmm. Donc, il passe quand même vraiment bien les cols, les petits cols comme ça, les petits capis. Et il a un registre vraiment, vraiment étendu. Alors, c'est parfois un cours un peu sanguin. Hein. Il peut être un peu rude, quoi, dans le combat des sprints. Mais franchement, je trouve que c'est mérité et il a vraiment montré qu'il avait l'étoffe d'un leader et un parfait duo, une parfaite complémentarité avec Van Der Poel. Ça s'est vu vraiment à la fin. Ils étaient vraiment, on voyait qu'ils avaient bien des automatismes l'un et l'autre. Et je pense que quand l'un dit qu'il avait des bonnes jambes, bah du coup Van Der Poel s'est sacrifié, allé chercher tout le monde. Et au final, bah c'est une des plus fortes équipes de classique qui remporte la timbale. Hein. L'expérience et l'agilité et la force, bah fait que c'est tous ces 15 cm de plus face à Matthews, qui a fait une course voilà, brillante également. Mais voilà, la complémentarité fait que je pense que grâce à ce duo, Alpecin avait de très fortes chances avec ces deux cartes et de le remporter encore cette fois. Et ils ont réussi à le prouver.
Exactement, t'as entièrement raison, mon Charlie. Et oui, et puis surtout, on les avait vus sur le Tour de France, Mathieu Van Der Poel et Jasper. Pardon, Jasper Philipsen faire d'une pierre deux coups, hein, c'est voilà, hein, c'est pas une surprise en soi de voir Jasper Philipsen à ce niveau quand même, qui finit devant un sacré plateau, hein, on en reparlera juste après, mais voilà, Jasper Philipsen emmené à la perfection par Mathieu Van Der Poel, c'est du déjà vu, en tout cas c'était sur le Tour de France, et bah il confirme, oui, comme tu dis, qu'il a la classe d'un grand sprinter et d'un grand leader, et puis bah Mathieu Van Der Poel qui ne fait pas une si mauvaise performance que ça, il amène son leader et en plus il finit dixième au passage de la course, donc franchement course parfaite on va dire pour Alpecin de Fenning, deux dans le top 10 et puis la victoire au bout, quoi, donc
c'est clair, voilà.
Ouais. Et alors pour toi, une question quand même. Est-ce qu'il y a des perdants, mais des vrais perdants dans cette course? Parce que Michael Matthews, en soi, moi, je n'attendais pas à ce niveau. Je connais bien le bonhomme, mais il commence un petit peu à se faire vieux, Michael Matthews. Hein, ça fait une paire d'années qu'il est dans le peloton et ses performances sont parfois aléatoires. Pogacar, en soi, on l'attendait là pour la gagne, peut-être, mais on s'est dit il y a peut-être pas assez de difficultés. Moi, on sait ses capacités au sprint, il est bon, mais voilà, hein, peut-être le grand perdant, Mats Pedersen, peut-être, parce que moi, j'attendais comme le grand favori un petit peu avec Mathieu Van Der Poel. Mats Pedersen, peut-être le grand perdant de cette course, Charlie. Juste avant, je te coupe, il y a Thierry Ladan qui nous a peut-être rejoint. On va voir ça. Vas-y, Charlie, développe et on verra si Thierry est parmi nous.
Bah, peut-être parmi les grands perdants de la course, je dirais quand même l'UAE sous le déroulement, parce qu'ils ont vraiment essayé de forcer la décision, le rythme. Ils ont montré qu'ils n'étaient pas entièrement bien organisés pour du coup étirer le peloton jusqu'au bout entre Cipressa et Poggio. Et il s'avère que voilà, avoir deux cartes plutôt qu'une, c'est ce qu'il a manqué à Pogacar. Il s'est fait reprendre par, euh, de Van Der Poel à deux reprises, qui a été surpris la deuxième fois, qui s'est vraiment arraché. Je pense que sans ça, effectivement, ils sont pas aussi nombreux à pouvoir rejoindre Pogacar par la suite. Donc, pour moi, c'est la petite déception. Je pense que d'année en année, ils vont s'améliorer, mais c'est finalement pour UAE de ne pas avoir réussi à faire péter la course comme Pogacar aurait voulu l'avoir. Il ne faut pas oublier que c'est l'une des courses les plus rapides, peut-être même la plus rapide de l'histoire,
oui,
à la moyenne.
C'est la plus rapide de l'histoire, oui, effectivement.
Sur un parcours comme ça, vraiment, c'est du toboggan, hein, et ça va très très vite. Donc, c'est le placement, et il manquait peut-être un ou deux coursiers spécifiques classiques pour venir. J'en témoigne de la présence de Del Toro, qui n'est pas forcément un coureur de classique à la base, qui a été un peu dépêché, qui n'était pas prévu sur la start list et qui a été rajouté. Isaac Del Toro, qui est quand même un très bon coureur, un très bon grimpeur pour forcer le rythme. Il a été présent dans le final, mais il n'a pas autant d'expérience qu'un coureur rompu dans les classiques comme ça d'un jour. Donc, il a peut-être manqué une cartouche. Après, il y avait Willems qui était très fort, mais voilà, il manquait une cartouche. C'était peut-être pour ça la déception, même si effectivement Pogacar, il fait troisième, c'est pas du tout indigne. Hein, il termine devant Pedersen. Pedersen, effectivement, c'est une déception. Je te rejoins parce qu'il a fait tenir sa garde pour essayer de basculer du bon côté. Ça n'a pas marché. C'est la course qui lui convient le mieux, très clairement. Donc voilà, c'est Pedersen, effectivement, la petite déception. La porte aussi, enfin les.
Oui.
Les Jumbo Visebike qui ont été absents, effectivement.
Alors on va regarder, on va jeter un œil au classement, voir le meilleur classé de chez Visma Visebike, c'est Olaf Koij en 14e position, Olaf Koij, et Christophe Laporte, oui, clairement contre-performance. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Christophe Laporte pour la suite, ou comme on l'a dit au début, parcours qui lui convient, mais manque de fraîcheur. Il a pas, je crois, c'est sa première course à Christophe Laporte. Manque de fraîcheur et puis même le temps de s'y remettre, tout ça. Inquiet, pas inquiet, Charlie?
Non, je suis pas inquiet. Après, la base maintenant du cyclisme, c'est pas forcément d'avoir beaucoup de jours de course. En Airpool, c'était sa course de reprise, mais je pense que lui, il va vraiment se donner tout son maximum pour les Flandriennes qui s'annoncent. Je dirais pas forcément ça. Il y a eu un peu de malchance, il est tombé. Et puis quand une course part mal sur un déroulé comme ça, voilà, ça. Je pense qu'ils seront meilleurs sur les Flandriennes, il sera meilleur dans les monts. Et voilà, la chance n'a pas tourné de ce côté-là cette année.
Okay.
Après, on aurait peut-être pas tous les ans un peu Pogacar, un Van Der Poel comme ça qui s'écharpe dans le podio. Donc ça aussi ça joue, hein. Ça fait que le paquet était très très faible, hein. Heureusement Alaphilippe était dedans, chance française, mais
oui.
Voilà, c'est aussi le fait que la course a été quand même vraiment vraiment musclée à la fin, enfin la dernière demi-heure ça s'est vraiment bien agité, et ça aurait été un petit peu dur aussi pour lui. Bon, on refait pas la course, mais non, je suis pas inquiet pour la suite. Je pense qu'il va largement nous prouver que il fait un très beau champion d'Europe.
Alors, on va parler de Julien Alaphilippe, mais juste avant, revoilà notre cher Thierry Ladan, qui normalement devrait pouvoir tenir toute l'émission. Donc, il était présent à mes côtés la semaine dernière, et il est de retour, notre vieux briscard, monsieur Thierry Ladan. Bonsoir. Alors, est-ce que Thierry...
Salut à tous.
Vas-y, vas-y. Oui, c'est tout bon.
Ah, quelques petits problèmes sur la route. On espère pour cette nouvelle émission.
Et oui, merci mon cher Thierry d'être parmi nous. Alors il est pas visuellement avec nous, mais c'est pas grave. On a l'audio, c'est l'essentiel. Et comme ça tout le monde pourra t'écouter en podcast. C'est cool. Alors mon cher Thierry, on était en train de débriefer. Milan-San Remo, juste avant que tu prennes la parole, vous pouvez voir juste en dessous, en bas de votre écran, les résultats de la semaine. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et puis, n'hésitez pas aussi à participer dans le chat YouTube si vous êtes présent, ou dans le chat Twitch. N'hésitez pas à venir parler avec nous. On est là pour interagir. Voilà, voilà. Mon cher Thierry, donc du coup, toi, tes impressions.
On a eu avec un petit storytelling autour de ça, notamment quand UAE, enfin, vraiment le coup de force. Et après ça, c'est un peu ralenti derrière avec Tim Wellens. Un podium qui était assez intéressant. On a vu pas mal de, on a vu Pogacar qui a attaqué en premier. Donc, fallait voir un peu comment ça allait réagir derrière. Surtout après ce qu'il avait fait sur les, et derrière les favoris, enfin, les Liverpool, etc. Tien, Maury, il y a eu avec un fait de Van Der Poel, et puis derrière un sprint où Philipsen a, on va dire, assuré son statut de favori dans un groupe comme dans ça, il a assuré montré qu'il le plus fort dans au sprint.
Ouais, oui, c'est vrai. Bah voilà, on l'a dit, hein, Philipsen emmené magnifiquement par Mathieu Van Der Poel. Il y avait rien à faire sur ce sprint. Donc bah je vais te poser la même question que à Charlie. Pour toi, les tops et puis bah les déceptions, les flops, les coureurs qui auraient pu être mieux, jouer plus devant et qui n'ont malheureusement pas pu peser dans la course.
En top, j'avais envie. Peut-être qu'on l'attendait pas à ce niveau-là non plus, même si.
Oui.
C'est sur ce type de course qu'il faut aussi l'attendre des fois et donc il est capable aussi de. Il y a aussi Alberto Bichol, bien aussi. Et après, on est toujours considéré un peu comme outsider, je peux pas dire favori, mais qui fait un beau Milan. Et en flop, un bandit qui craque de l'arrivée, sinon comme ça, pas de nom qui vient.
Oui, c'est vrai. Alors Michael Matthews, ouais, on l'attendait pas. C'est un coureur des classiques d'un jour, c'est vrai. Mais voilà, Matthews, hein, franchement, belle surprise. Et puis bah ça, je pense que tu l'as dit, hein, un peu déception, Christophe Laporte. Pour toi, est-ce qu'il faut s'inquiéter ou t'es du même avis que Charlie? Pas d'inquiétude, concentration sur les Flandriennes.
Non, pas d'inquiétude. Voilà, concentration sur les Flandriennes. Il montre déjà depuis. Il a montré ses dernières étés en forme et que son terrain, c'est surtout les Flandriennes. Donc, je vois pas. Enfin, si j'ai la Flandrienne, peut-être s'inquiéter. Oui. Maintenant, pas vraiment, je pense.
Oui. Je pense qu'il faut pas avoir d'inquiétude pour notre cher champion d'Europe. Vous auriez quelque chose à redire éventuellement sur ce Milan San Remo, éventuellement Charlie.
On n'a pas souligné la performance de Pidcock, qui a effectivement été aussi dans le jeu dans la descente. Hein. Il fait une descente admirable et il n'était pas très très loin de faire la différence. Il n'est pas repris très très loin de la ligne. C'était pas vraiment le meilleur sprinter du lot, donc il a joué sa carte à fond, donc à surveiller de voir s'il maintient. Il est quand même à un bon niveau, il est peut-être un cran en dessous des Pogacar et autres, mais il faut quand même garder un œil sur lui. C'était la bonne carte d'Ineos, il a été au-dessus de Ghana, on l'a pas vraiment vu, il a disparu aussi assez vite, donc c'est une déception, mais voilà, chez Ineos, Pidcock, ça peut être la carte pour les classiques.
Ouais. Et puis ton avis aussi pour toi Thierry, j'en ai parlé un petit peu au début de l'émission, mais la 9e place de Julien Alaphilippe, c'est rassurant.
Ouais, c'est rassurant, ça fait du bien là, surtout quand il dit qu'il a crevé au kilomètre, donc c'est rassurant de le voir là, juste sur Ghana, une trêve dans la descente, ou du moins qu'il a un problème mécanique. Parce qu'il bascule avec les premiers, et il finit en même temps qu'Axel Zinglet. Donc ouais, ça. Et puis aussi, je voulais souligner top 3 Fradé, qui vient finir 7e là, en San Remo. Donc C'est une belle montée en puissance. Il a prolongé avec l'Auto Destiny. Mm-hmm. Pareil pour Lennart Van Elvelt. Donc, non, c'est bien. Et Destiny aussi de prendre et de me remontrer qu'il remonte petit à petit après une paix.
Moi, je noterais aussi une personne qui est présente, hein, c'est Matej Mohoric, hein, le vainqueur de Milan-San Remo en 2022. C'est quand même pas mal. C'est intéressant de le voir ici, de se dire qu'il est encore présent, qu'il peut encore peser dans certaines courses. Bon, eh bien, je pense que nous avons fait le tour de ce Milan-San Remo qui a été vraiment très intéressant, franchement, très beau monument. Et puis maintenant, on va faire un petit retour en arrière et puis on va parler des deux courses à étapes qui ont rythmé le début du mois de mars. Je veux bien sûr parler de Paris-Nice. Je vous remets le programme hop sur l'écran. Et voilà. Donc, Paris-Nice, remporté par Matteo Jorgensen, la Visma Elise Bike. Et bien sûr, l'un ne fait pas l'un sans l'autre. Qu'est-ce que ça serait ? La Visma Elise Bike qui fait doubler et qui remporte aussi Tirreno Adriatico. Vos impressions sur ce Paris-Nice, on va commencer par toi, mon Thierry.
J'ai trouvé que c'était un beau Paris-Nice. Ok.
Oui.
Je trouvais que c'était un beau Paris-Nice. C'est une des. Alors, même Visma, oui. C'est un beau Paris-Nice dans le sens où on voit des coureurs qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir sur les tout premiers plans. Pas de la gagner pas. McNulty aussi, on sait que les courses d'un jour, mais qu'il a tendance à avoir des défaillances sur une. Mm-hmm. Kelmoseux qui monte en puissance. Luc Plapp aussi, ouais, oui. son transfert. Et c'était un bon pari avec quand même. Et jusqu'à la dernière étape, on s'est dit que les coureurs qu'on mettait pas en ultra favori allaient craquer. Sur Tirreno, j'ai été un peu de voir, non, pas le mot oublié, mais de ce chrono d'Ayuso qui a un petit peu peut-être sur le chrono de Vingegaard quand on s'y pense, par exemple. On l'attendait peut-être un peu plus haut. Et voilà, Vingegaard a déroulé. Eux a été aussi gros, hein, qui fait un sacré Tirreno. Un peu moins de suspense dans le sens vraiment grimpé. Vingegaard a entré qui était plus fort, mais il y a eu le top 5. Donc, ouais. un beau Tirreno aussi.
Charlie, ton avis ?
Je partage entièrement les remarques sur les deux courses de mon cher collègue. C'est que Paris-Nice, je trouve, a été très plaisant à voir, indécis, avec des scénarios de course entre favoris où il y a eu certains rebondissements. Avec Remco qui, du reste, a bataillé vraiment jusqu'au bout pour. Il croyait encore jusqu'au bout à Nice pour renvoyer Jorgensen dans les cordes. Jorgensen était vraiment solide, mais il y a eu de l'indécision, des coups tactiques. Et c'était vraiment une course plaisante à voir. C'est pas forcément toujours facile. Le parcours a changé. En plus, une étape a été modifiée, un parcours modifié en raison des conditions climatiques. Et malgré ça, on a vu une super course indécise. Et après, je trouve que ça redore le blason de cette course. Je trouve, comme elle arrive en premier, on l'oublie un peu en fin de saison, mais le déroulé était hyper plaisant à suivre. Moi, j'ai vraiment pris du plaisir à suivre ces étapes. Et Jorgensen, voilà, il, quelque part, alors lui, il dit qu'il peut pas jouer les courses de 3 semaines, mais il a un registre tellement vaste. Il était présent dans les Flandriennes, il était vraiment devant, on le connaissait pas bien, il était chez Movistar, un peu tout seul à se batailler. Là, il rentre dans la logique Visma, il dit the bike et il remporte, il tient son rôle de favori et finalement, dans l'équipe, et il réussit à gagner. Vraiment très 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 sympa à voir. Après, il y a des points d'interrogation sur Moi, j'ai trouvé pour Primoz Roglic qui, d'habitude, oui, quand des courses de reprise arrivent à... Alors, peut-être c'est le poids des ans, hein, il sera peut-être meilleur après, mais... Ou alors, il met tout sur le tour et du coup, il en garde, mais c'était pas vraiment dans son habitude, un tout petit peu en retrait. Puis on voit quand même qu'il y a des, peut-être des petits réglages à faire avec ses coéquipiers, Vlasov aussi. Donc, ça pour moi, c'est à surveiller. À surveiller aussi Remco, est-ce qu'il va réussir à monter, à continuer à monter en puissance. C'est quand même une super course, hein, il gagne son étape. Voilà, il s'est piégé une fois et du coup, ça l'écarte du, vraiment de la gagne. Mais on ne peut pas dire que ce soit une mauvaise entame sur les routes françaises pour lui. Et puis sur Tirreno pour enchaîner, Vingegaard sur les cols longs, il est injouable, hein. Franchement, quand il a fait hausser le rythme pour sa prise de pouvoir, là c'est clair qu'il y avait lui et les autres, donc il était vraiment très très impressionnant. Pas aussi surprenant que son casque, que les casques qui sont arrivés en cours de route, qui sont homologués.
Mais ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, les casques qui viennent d'être validés aujourd'hui par l'UCI, oui, effectivement.
Qui sont validés, donc on a des chances de revoir effectivement par la suite, mais c'est une machine bien vieille. Après, on va voir s'il arrive à tenir la cadence, parce que c'est vrai que là, ce jeu de course avant les grandes échéances, il semble pas qu'ils croisent Pogacar avant le tour, parce que ils ont des parcours assez différents. Alors après, je dis ça de tête, peut-être je me trompe, mais voilà, l'adversaire à sa taille, on le verra peut-être qu'au tour. Donc, on verra aussi quand il sera un peu plus embêté par son rival préféré.
Exactement. Alors quand même, moi, il y a un point que j'aimerais soulever sur ce Paris-Nice, c'est le duel qu'on attendait entre Roglic et Evenepoel. Il y était pas. On l'a pas eu ce duel. Franchement, j'y étais assez déçu. Alors, bien sûr, ça a mis en valeur d'autres coureurs et ça a souvent été dit par les observateurs que ce Paris-Nice était très ouvert. Il y avait, à part Evenepoel et Roglic, il n'y avait pas de gros leaders qui étaient présents sur cette course. Donc finalement, on se retrouve avec un vainqueur un peu surprise, Matteo Jorgensen. On connaît ses qualités dans le contre-la-montre et on connaît ses qualités dans la montagne, mais on ne s'attendait peut-être pas à l'avoir à ce niveau. McNulty aussi qui a fait de la résistance, qui malheureusement craque le dernier jour. On pouvait s'y attendre un petit peu vu la difficulté qu'il a eue dans l'avant-dernière étape de montagne avant d'arriver à Nice. Et puis quand même un classement général ouvert, très ouvert. Déçu, pas déçu de ne pas avoir vu ce duel, voire même inquiet pour les deux coureurs, Charlie?
Non, inquiet non, parce que je pense que, comme je le disais, finalement Remco, il n'écrase pas la course, il a montré au fur et à mesure de la semaine qu'il était dans le match et qu'il a été très offensif, il a tenu sur une équipe aussi qui a pu vraiment un peu l'aider aussi, donc non, je suis pas inquiet pour Remco. Après, c'est vrai que là, il rentre dans une autre galaxie, une autre catégorie pour la préparation du Tour. Et que c'est au final, au sortir du tour, qu'on saura si sa progression est encore forte par rapport au vraiment au plus grand cadre du peloton. Non, pour moi, l'interrogation, c'est Roglic, mais peut-être que comme il change d'équipe, voilà, il n'y a pas les mêmes automatismes, faut se remettre dans les tactiques de course avec d'autres coéquipiers. C'est pas le même état d'esprit qu'a Jumbo-Visma où il avait auparavant pas mal de recul, pas mal d'années de d'expérience. Donc voilà, faudra voir effectivement de quelle manière ça se rend. Je suis un peu plus inquiet pour Roglic, mais peut-être que je serai démenti au cours du printemps. Mais franchement, c'était plutôt bien justement. On n'a pas eu le duel attendu, le duel des pronostiqueurs, et on a eu d'autres coursiers pour jouer la gagne, et c'est pas plus mal quelque part, ça rehausse un peu le suspense. Je trouve pas ça négatif, quoi.
Oui, alors ça, je suis très content d'avoir vu un Paris-Nice aussi ouvert, mais quand même un gros point d'interrogation sur Primoz Roglic qui finit à 5 minutes 33 quoi du vainqueur final. Inquiet, peut-être pas inquiet, mais il va falloir bien surveiller Roglic sur les prochaines courses à venir, parce que moi, franchement, déjà sur la Vuelta, il n'était pas impérial, on se souvient, l'année dernière. Alors, c'est une autre saison, il était avec Jumbo, il n'était peut-être pas leader. Mais oui, je pense aussi le temps de se remettre dans sa nouvelle équipe, l'équipe Astana. En plus, il n'a pas été le leader, vu que Vlasov a pris vite, moi je trouve, le statut de leader quand il va chercher la victoire d'étape, et puis il est pas venu l'aider, donc je sais pas, il va falloir faire attention au cas de Primoz Roglic. Et alors moi, vous connaissez, je pense, ceux qui sont habitués de nous écouter, mon amour pour le coureur portugais que je vais vous parler, c'est João Almeida, bien sûr. Contre-performance pour moi de João Almeida. Quel dommage. Pourtant, il partait avec le statut leader, je pense, sur ce Paris-Nice. Et puis, il finit à 6 minutes du vainqueur, quoi. Il finit 11e, ouais, c'est ça. 11e, à 6 minutes 8. Si Thierry nous entend, qu'est-ce que t'en penses, toi, mon Thierry, de cette contre-performance de João Almeida? Est-ce que Thierry, tu nous entends?
Oui. Est-ce que c'est bon? Tout est parfait.
Oui, c'est bon.
Et João Almeida, c'est que un moment où, dans le sens où il est fort sur les, le problème, c'est qu'il va être très vite lâché. Il va revenir sur un peu tous les lâchés, tout. Après, c'est quand ça démarre devant, et on connaît, surtout quand on sait aujourd'hui, ça a tendance à partir de toujours. Et donc, s'il ne met pas la machine en route dès le début, c'est un peu compliqué. Contre-performance, oui. Maintenant, c'est plus logique que ça, dans le sens où, oui, il aurait. Mais ça va un petit peu dans la lune, quoi.
Oui, assez d'accord. Hein. Malheureusement, ça me fend le cœur, hein, mais il faut avouer, oui, qu'il a fait un mauvais Paris-Nice, voilà. Sur le chrono, c'est un peu ça qui lui sauvait ses places au classement général. C'était le contre-la-montre par équipe qui a vraiment sauvé João Almeida. Et puis, on le sait, quand ça a tendance à être plus long, que ça grimpe un peu plus, João Almeida, oui, c'est vrai, éprouve quelques difficultés, et je pense que il y a encore une bonne marge de progression là-dessus. Parlons un petit peu de nos Français sur ce Paris-Nice. Première course World Tour en France. Et puis, les Français, on les a pas trop vus. Hein. Bon, David Godu qui chute. Est-ce que David Godu, s'il avait pas chuté, il aurait été au niveau de tout le monde? Moi, j'ai mis un gros doute quand même, parce que on a beau avoir chuté, le lendemain, on le voit pas tenter de se mettre en valeur. Alors peut-être que vraiment, ça a été compliqué pour lui. Mais moi, j'aimais quand même un gros doute, un gros mais sur David Godu. En tout cas, qu'est-ce que t'en penses, mon Thierry?
Parce que ça va être difficile sur le Grand, donc il y avait doute. Maintenant, je pense pas que ça remettait statut, j'allais dire, de favori, mais Paris-Nice. C'est-à-dire que si il chute ou il tente de retirer et il chute, voilà, il me semble qu'il se fait, parce que juste après, il avait dit qu'il ressentait compliqué de pouvoir faire quelque chose, et puis maintenant faut pas s'arrêter à pour lui. Faut qu'il revienne, faut que la confiance retourne. Peut-être j'aurais vraiment le relan, mais ouais, petite déception quand même, surtout vu la chute. la chute dans laquelle prise et je sens surtout la chute qui cause quoi.
Et la performance des Français en général, qu'est-ce que tu en as pensé? On a vu Mathieu Burgodo se mettre en valeur qui perd pour 3 points le maillot de meilleur grimpeur quoi. Encore la loose quoi pour les Français ou faut pas s'inquiéter?
C'est vrai que au-delà d'être pour le bon moyen de faire autour de ce maillot à peu résultat un peu en manque d'avait un peu tourné sur Bruxelles Kurn où ils avaient fait de ils pris bon le classement UCI et je pense que ce match l'équipe où il fallait les résultats
c'est ça
donc je pense que c'est bien dans le sens c'est dommage mais bon je pense que ça a rassuré aussi la Direct Energy de montrer qu'ils avaient aussi force là aujourd'hui en 2024 aussi aujourd'hui je pense un petit mais Lorenzo Manzin qui fait ses 7 ou 8 sur la classe donc voilà je pense que c'est bien pour Burgodo et Direct Energy maintenant au niveau de Direct Energy maintenant au niveau des Français je parais peintre je trouve qu'il fait un bon Paris-Nice de Félix Gall, finit 14e au général.
14e du classement. Mauvais
et il faut s'appuyer sur ces résultats-là pour continuer sur sa saison. Quoi.
On a perdu, je crois, un petit peu notre Thierry. On a perdu un petit peu notre Thierry, alors je vais le temps qu'il se reconnecte un petit peu, je vais te passer la parole, Charlie. Ton avis
oui,
sur les Français
ouais. Sur les Français, quand on regarde le classement, les classements, on peut mettre une petite pointe de déception. Puis dans les équipes françaises, au-delà de ça, je suis un tout petit peu déçu par Félix Gall qui est que 9e. C'était une petite pointe de déception, même si on a vu Crass, me semble, qui doit être chez Total Energy, qui était présent dans certaines étapes. Mais oui. Après, il y a des coureurs qui viennent.
Il a abandonné. Crass, il me semble.
Ah, il a abandonné.
Ouais, il a abandonné à la 7e étape. Huitième étape, il a abandonné pour les conditions météo. Ouais.
Ok. Et c'est de voir aussi des jeunes comme Costiou qui finalement n'avaient pas forcément des responsabilités, s'accrocher. Je pense qu'il a gagné de l'expérience en étant assez proche des tout meilleurs sur Paris-Nice. C'est vrai, on peut se dire ouais, Paris-Peintre, c'est pas mal. Je pense qu'il sera encore meilleur pendant l'été, même si c'est rassurant de le voir quand même un peu à la lutte. Donc, il est dans le top 20 comme Costiou. Après, voilà, sur Paris-Nice, c'est quand même une course de World Tour, quoi. Donc, c'est quand même vraiment des très très forts coureurs. Il n'y a plus de course, on va dire, de préparation pour une grande échéance. Hein. Les coureurs arrivent au taquet dès les épreuves à l'autre bout du monde. Donc voilà, le cyclisme mondial est hyper relevé. Donc on espère avoir d'autres satisfactions en cours d'année parce que c'est des batailles pour gagner au niveau World Tour pour les Français, c'est clair.
Oui, un peu compliqué pour les Français là qui n'ont pas été tellement à la fête sur ce Paris-Nice. Et puis sur Tirreno-Adriatico, ton avis général sur la course alors qu'il a été bien évidemment largement dominé par Jonas Vingegaard. Et puis comme tu l'as dit, il y avait les autres après. En soi, qu'est-ce que tu en as pensé? T'es gagnant, t'es perdant, les coureurs que tu as trouvé le plus en forme, moins en forme, mon Charlie?
Alors moi, c'est plutôt sur une impression générale par rapport à certains coureurs qu'on observe ou qu'on observait ces dernières saisons. Moi, je suis plutôt rassuré sur la manière de Ben O'Connor de pouvoir être un peu dans le match depuis le début de l'année. Il a été assez saignant. Bon, là, il est que cinquième au final, mais j'ai trouvé ça plutôt encourageant. Uytebroeks, il est quand même septième. Pour quelqu'un qui intègre une équipe, Kevin Garde en leader, bah, il va pouvoir grandir, grandir à ses côtés. Vauquelin, bah, on n'en a pas parlé, mais il est dixième quand même, c'est pas mal. Ça, c'est... Kevin Vauquelin, il se frotte un niveau au-dessus. L'année dernière, il gagne en Provence. Enfin, il gagne des courses. Il est dans le match de la victoire sur le niveau en dessous. Donc ça, c'est, je trouve intéressant. Et comme on le disait en début d'émission, comme le disait Tom, c'est vraiment, il y a eu de la lutte pour le podium, quoi. C'était indécis, Ayuso, Hindley, Del Toro. Bah, Del Toro qui est quand même quatrième à 20 ans, c'est quand même juste incroyable. Oui. Mais il y a quand même eu de l'indécision pour la suite. Et même si la course a été un peu écrasée par Vingegaard, derrière, on sent qu'il y a tout un paquet de coureurs, qui sont assez proches les uns des autres, hein, jusqu'au dixième, ils étaient assez proches les uns des autres. Donc, il y a quand même un peu d'indécision aussi, et ça, c'est assez plaisant. Alors, je ne sais pas ce que va devenir le calendrier de la course dans les prochaines années, ce que je pense qu'ils veulent, au niveau du calendrier, un peu dissocier les dates pour plus avoir des épreuves qui s'approchent frontalement. D'autant plus qu'aucune des courses n'a accueilli les vainqueurs de classique, enfin, ils n'étaient pas là. Donc, elles ont vraiment un fonctionnement propre avec des coureurs un peu. Voilà, qu'on n'a pas revu sur Milan-San Remo pour jouer la gagne. Donc à voir. Mais oui, c'est une course où elle est moins observée parce qu'elle est en Italie, en termes de retransmission pour nous en France. Mais bon, c'est quand même une très belle course et, avec de la montagne, avec des arrivées rapides. Voilà, on a quand même vraiment plaisir à voir ces courses-là qui font partie... de la tradition et du printemps qui arrive.
Oui, exactement. Alors juste avant de parler du printemps qui arrive, on va juste faire un petit arrêt du côté des sprinteurs. Il y avait quand même quelques opportunités à aller chercher. Et donc, on va commencer par Inif et par la victoire de Olaf Koij qui a remporté 2 victoires d'étape sur Paris-Nice. Surpris, pas surpris? Moi, en tout cas, ça me surprend pas de voir Olaf Koij à ce niveau. Il a largement dominé le sprint. Je pense que c'est une performance logique de la part de Koij. Et oui, voilà, il a dominé le sprint et il y a pas tellement eu de débat. Si ce n'est quand même, pour moi, la révélation de ce Paris-Nice du côté des sprinteurs, c'est Laurens Pitti. Laurens Pitti, peut-être en digne successeur de Arnaud Démare, qui finit plusieurs fois troisième, qui prend le maillot troisième ou deuxième, qui prend le maillot jaune lors de la deuxième étape. Sympa de voir les sprinteurs à la fête comme ça sur ces épreuves, en tout cas sur Paris-Nice. Beaucoup d'étapes ont fait honneur aux baroudeurs pendant les 2-3 dernières années. Et puis là, les sprinteurs ont bien tenu leur rang. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Thierry, qui est de retour?
Est-ce que on m'entend bien?
Oui, c'est très bien.
Parfait. Sur Laurens Pitti, ça.
Et les sprinteurs en général sur Paris-Nice.
Ouais, c'est vrai que Laurens Pitti, je pense pas qu'il ait énormément. Enfin, il a pas forcément, je pense, la puissance que pourra avoir un Koij ou autre. Je pense que il est très fort. Mais au-delà de ça, c'est son placement aussi qui est assez impressionnant et surtout son placement qui fait à peu près tout seul. On l'a pas vu beaucoup aider sur les sprints, donc c'est vrai qu'il est vraiment impressionnant. Au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a une domination aussi de Koij malgré la petite erreur, enfin le petit passage sur la deuxième étape, il me semble, où il passe un peu à travers. Et il finit 17e, mais sinon, ouais, c'est vrai que Laurens Pitti est vraiment impressionnant et il l'avait déjà montré hein, sur la course en Australie d'un jour je l'ai plus la course sur le tour le cas d'Evan Rodriguez il me semble
oui, c'est ça.
Il me semble que c'était ça qu'il avait gagné donc, franchement, il continue sur sa progression et au-delà de sa progression, c'est aussi tout un groupe qui progresse, un groupe de jeunes chez la Groupama qui progresse.
Ouais, surtout ce qui est intéressant hein, du côté de Lorenz Pitti, c'est que contrairement à Arnaud Démare, lui, il n'a pas besoin de train. Et ça, c'est quelque chose qui peut être vachement intéressant du côté de la Groupama. En général, l'équipe était alignée pour le tour avec au moins 4-5 mecs autour d'Arnaud Démare et peu de place pour les autres grimpeurs, les autres coureurs qui pouvaient aller chercher un bon classement général. Et ben là, ça peut peut-être offrir une belle perspective à Groupama FDJ. Ensuite, sur le sprint, donc Olaf Koij, bien sûr, qui s'impose à deux reprises, et une belle surprise, en tout cas, la victoire d'Arvij de Clan. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Charlie?
En fait, c'est alors je fais vraiment tout de mémoire parce que j'ai peut-être je vais me tromper, vous allez me corriger, surtout corrigez-moi. C'est un coureur à maturation tardive, non? C'est pas ce coureur qui a gagné à 29 ans qui est chez Tudor, ou je me trompe complètement?
Il a si c'est coup, ça, il est chez Tudor, oui, t'as compris.
Là, c'est ça, un super recrutement parce que je pense qu'il a gagné des courses, il était présent au deuxième ou troisième niveau, il a été repéré quand même dans l'équipe de Cancellara, donc qui prouve qu'il a quand même du potentiel qui n'a pas été exploité. Donc, il a maturation tardive, mais on devrait pouvoir devra pouvoir le revoir. Alors, c'est pas un coureur de tout premier plan, peut-être pour batailler pour une victoire du tour, mais ça fait quand même plaisir de voir qu'il y a des coureurs qui peuvent remonter comme ça, qu'on connaît moins et qui peuvent faire de bonnes saisons. Lorenz Pitti, tu l'as dit tout à l'heure, il fait quand même aussi 15e de Milan-San Remo, il a que 21 ans, il peut être un coureur de classique, aussi son registre peut être un peu plus large que le sprint, peut-être, on verra. Mm-hmm. Mais voilà, c'est moi je trouve que c'est bien, c'est plaisant de voir un peu d'autres cartes pour le sprint. Moi je trouve ça bien de pouvoir avoir des noms nouveaux à cocher sur des sur des post-it avant le début des courses à pointer pour les arrivées groupées.
Ouais, c'est vrai, c'est assez intéressant. Et puis surtout, moi, quelque chose qui me choque un petit peu, c'est quand même de savoir que cette équipe Tudor Cycling Pro Team vient seulement d'arriver, quoi, quasiment. Et elle commence déjà à gagner en World Tour. Moi, je pense qu'il y a certaines équipes, hein, vous saurez qui, je pense que vous comprendrez de qui je parle, qui devraient se poser quelques questions. Voilà. Et puis du côté de Tirreno, au niveau du sprint, on a vu Jesper Philipsen, il me semble, s'imposer. Et on a vu aussi Biniam Girmay et Jonathan Milan. Voilà les sprinteurs qui étaient un petit peu au rendez-vous aussi de côté de Tirreno. Franchement, côté du sprint, c'est plutôt intéressant. Je suis content en tout cas de voir que les sprinteurs ont pu se mettre en valeur sur ces deux courses à étapes, parce que comme j'ai dit, à certains moments, dans certaines courses à étapes l'année dernière, il y a deux ans, il y avait moins de sprinteurs qui se mettaient en valeur. Et là, franchement, il y a une belle diversité. Ça promet pour les trois grands tours qui arrivent. Bon, je pense qu'on aura fait un petit peu le tour des courses à étapes. Peut-être vos tops, vos flops de pour conclure sur les courses à étapes, vos tops, vos flops de ces Paris-Nice et Tirreno. Charlie?
Pour moi, les flops, hein, c'est pas un flop, mais tu parlais de Girmay, finalement, je suis content de le revoir après une saison un peu en dedans, donc je trouve que c'est encourageant. Je trouve que c'est hyper encourageant aussi de voir Bernal. On l'a pas évoqué, mais Bernal, il a changé de. Alors, il a un peu baissé pavillon en cours de Paris-Nice, mais il met quand même vraiment tout son cœur pour être à son meilleur niveau et essayer de se batailler. Alors, quand c'était face à Vingegaard, il a un peu plié, mais aussi par ailleurs avant ses courses World Tour. Donc moi je trouve que c'est bien de voir des coureurs qu'on avait qui n'étaient pas oubliés, mais qui ont fait des saisons un peu décevantes ou qui reviennent de l'arrière. Donc Moi, je dirais ces deux cas-là à souligner l'un et l'autre. Guirmay peut-être à suivre pour les classiques et Bernal pour les courses par étapes.
Ouais. Moi, je mettrais en flop. Moi, je mettrais. Ça peut paraître un petit peu. Ça peut paraître un petit peu méchant, mais je dirais les Français qui en général n'ont pas été très présents dans ces courses. Et puis comme top, ouais, moi je suis entièrement d'accord avec. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est le retour de Bernal. Franchement, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. On va espérer qu'il se remette. Qui se remettent très vite pour continuer à performer et puis de le voir en forme sur le tour et puis bah voilà je pense on aura fait le tour et puis Thierry devrait revenir devrait pas tarder à être là. Est-ce que tu nous entends Thierry, est-ce que tu es là? Oui, Thierry est là. Thierry, t'es top, t'es flop de ces courses, oui. Thierry, est-ce que tu nous entends?
Ouais,
oui, c'est tout bon.
Donc, mais top et flop sur eux.
Et Paris-Nice, oui.
J'avais envie de mettre le bon Paris-Nice de Bouitrago qui malheureusement finit pas à la dernière étape quand Edwin et McNulty qui vient lui faire un beau Paris-Nice. Donc je pense qu'en ultra gauche une progression qui est assez linéaire, il a pris de la caisse l'année dernière avec deux grands tours donc c'est bien pour lui et j'avais aussi envie de lire le Mathias Kelmode, c'est vrai qu'on le voit un peu partout mais il a une carrière qui est assez intéressante et il montre qu'il progresse de plus en plus et donc c'est toujours pour cycle de très capable de former de très bons coureurs qui peut leur donner un avantage quand on voit par exemple ce qu'ils ont recruté Albert Philipsen qui a gagné les championnats du monde U18 l'année dernière et donc Pirenno j'ai envie de voir ce qu'il a pu faire en aidant Ayuso tout en performant assez bien. Il est jeune et c'est vraiment de bon augure pour lui de la saison et pour UAE hein, quand on voit son jeune âge et puis ce qu'il est capable de faire aujourd'hui.
Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai hâte de voir tous les coureurs que vous avez cités au niveau des tops. J'ai hâte de les voir essayer de confirmer. Et franchement, ça promet pour la suite de la saison. Et maintenant, nous allons entrer dans la dernière partie de Barbecue Vélo. Les Flandriennes qui arrivent à grands pas et avec vendredi le Grand Prix E3. Quand on voit la start list, on se dit il y a des airs de Tour des Flandres qui arrivent. Franchement, ça arrive à grands pas. Et quand je vois la start list, les Mats Pedersen, Julien Philippe, Wout van Aert, Trakhnik, Guirmay, Asgreen. Waouh, ça me donne envie. J'ai hâte de voir la suite. Qu'est-ce que vous attendez de ce JPO 3 et puis de cette campagne de classique qui arrive à grands pas? On va commencer par toi, mon cher Charlie.
Ah, le feu d'artifice. Hein. J'attends le feu d'artifice. Là, franchement, on a tellement des courses enlevées. Puis c'est quand même vraiment des moments clés de l'année. Hein. C'est cette quinzaine sainte. Hein. Il y a la semaine sainte qui arrive après, mais Kazetsat qui a commencé avec Bruges de Panne là aujourd'hui avec la victoire de Philipsen où voilà on rentre petit à petit dans l'ambiance de ces courses avec une ambiance particulière, on sent la ferveur autour de des spectateurs présents, voilà, de cet engouement, voilà, de ces courses avec ces voilà, ça frotte, et ça, voilà, c'est ce qu'on cherche aussi, quoi, de cette ce sel là toute l'année. C'est quand même vraiment à part, hein, les Flandriennes. Donc bah, je pense qu'on a quand même vu pas mal de petits signes quand même. On a des Visma qui étaient pas mal organisés avec des coureurs différents, même si c'était pas, on n'a pas vu un Wout van Aert impérial, ce qui va nous rassurer. On a hâte de voir la porte.
La porte qui n'est pas sur la start list d'ailleurs.
Alors pas là effectivement.
Ouais.
Mais est-ce que du coup voilà de quelle manière les Visma vont réussir à peser sur la course, voir si les Soudal vont être au taquet. Enfin voilà, enfin, il y a quand même vraiment pas mal de belles interrogations qu'on a encore. Voilà, on va peut-être voir se lever des E3.
Ouais, et quand même, bah oui, comme tu l'as dit, cette semaine sainte qui arrive, c'est waouh, ça c'est assez impressionnant. Déjà il y a eu la classique Bruges-la-Parne remportée par Jesper Philipsen devant Tim Merlier et Danny Van Poppel. Et puis bah comme on l'a noté, la belle quatrième place de Jason Tesson. Et donc oui, la semaine sainte qui arrive, l'enchaînement E3, Gent-Wevelgem, à travers la Flandre, le Tour des Flandres, et après Paris-Roubaix, Amstel, Flèche Wallonne, Liège. Waouh, franchement, ça donne envie. Si Thierry nous entend, pour toi, quel est le coureur que tu attends le plus, que tu as envie de voir confirmer et se dire celui-là, c'est un grand, parce que il y en a plein des coureurs, il y en a qui ont même déjà gagné des monuments, des grandes classiques, mais qui n'ont pas encore complété leur palmarès de la plus grande des façons. Thierry, qu'est-ce que tu en penses? Et quel est le coureur que tu attends le plus sur ce calendrier?
Un coureur que j'attends vraiment le plus, qui mériterait aussi d'être vraiment sur le devant, c'est Maurizio. Il est tout le temps là, du moins très rarement, il lui arrive, il est toujours dominé par eux. Et c'est vrai que, bah, finalement, mais il fait pas un top 3 sur les Flandriennes l'année dernière. Pas un top 5. C'est assez compliqué quand même. Il est sur le devant, et surtout, c'est un coureur qui est dans le sens où bah voilà, qui a beaucoup de qualité, il y a toujours un tout petit qui puisse enfin voir une victoire, se refirmerait encore plus le coureur talentueux qu'il est. Quand même Motej Mohoric, c'est-à-dire qu'il puisse débloquer quelque chose là sur cette belle semaine de Flandrienne et notamment sur sa saison flandrienne qui arrive.
Ouais. Alors moi, franchement, le coureur que j'attends le plus, honnêtement, c'est Wout van Aert. Franchement, mon côté Frenchy aurait pu dire Christophe Laporte, mais moi, c'est Van Aert. Parce que Van Aert, il est toujours bien placé. Il a déjà gagné les grandes courses. Il gagne souvent sur les grands tours aussi. Il gagne des étapes, mais il lui manque quand même ces classiques flandriennes, quoi. Il lui manque quelque chose au palmarès, quoi. Il a toujours pas gagné Paris-Roubaix. Le Tour des Flandres, rectifiez-moi si je ne suis pas bon, mais il me semble qu'il n'a pas gagné le Tour des Flandres non plus. Liège, c'est pareil, il n'a pas encore gagné alors qu'il en a les qualités. Donc moi, pour moi, c'est Wout van Aert. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous demander votre avis, mais moi, pour moi, c'est Van Aert. C'est l'année où il faut confirmer, parce que on connaît les qualités du coureur. Bon en montagne, bon en sprint, bon il est polyvalent. Il est polyvalent, mais moi, je l'attends surtout là, sur les classiques flandriennes. Qu'est-ce que tu en penses, mon Charlie?
Ouais, c'est un vrai point d'interrogation, hein, parce que sur une course précédente où Tratnik gagne, je ne sais plus laquelle, on ne le sent pas encore à son sommet. Pendant l'hiver, il fait quelques cyclocross, il est quand même vraiment loin de Van Der Poel qui est quand même étincelant en ce moment.
Ouais.
Même s'il n'est pas à 100%, bon, bah, il est quand même dans le jeu pour Milan-San Remo. Moi, je suis... je suis un peu dubitatif sur Van Aert. Est-ce que dans sa tête, il perd pas le match parce que sa propre équipe, il est challengé par d'autres coureurs ou parce qu'il y a la concurrence qui est vraiment forte, moi. J'espère pour lui, hein, parce que vu la classe qu'il a, il mériterait d'avoir un autre monument à son palmarès que Milan-San Remo. Mais honnêtement, à dire vrai, peut-être on va te déjouer, je vais te déjouer après-demain, après le Grand Prix E3, mais dans quelques jours après le Grand Prix E3, mais là, je suis assez dubitatif, je ne sais pas trop quoi en penser. Je vois plutôt chez les Belges quelqu'un comme Deli qui me sent sur une trajectoire. Il a été malade, il n'a pas pu être présent, mais qui me semble qu'il progressait aussi d'année en année. Donc, j'irais plutôt un Deli qu'un Wout Van Aert. Alors, si c'est le cas, tant mieux pour Van Aert, mais j'ai une petite appréhension pour ça.
Ouais, franchement, moi, je suis. C'est pas que je suis inquiet pour Van Aert. On sait qu'il arrivera toujours à gagner, toujours à être présent, mais franchement, il va falloir aussi se poser peut-être la question du leadership, mais il y en a un qui est toujours présent, qui a l'ambition de gagner un monument. Je pense que tu l'auras deviné, c'est Christophe Laporte, qui le bat d'ailleurs d'rien sur les championnats d'Europe quand même. Mais voilà, Christophe Laporte, maintenant, il a un nouveau statut. Depuis qu'il est passé chez la team Visma, c'est devenu un coureur de classe mondiale. C'était un coureur qui pouvait jouer les podiums, les trucs comme ça. Mais maintenant, il a réellement les capacités de jouer la gagne. Alors peut-être que le résultat sur Milan-San Remo me fera mentir et qu'il restera sur cette pente. Mais franchement, moi, en tout cas, Christophe Laporte, il l'a dit en début de saison en interview, il veut gagner un monument et il en a les capacités. Je pense que tu es d'accord avec moi, Charlie.
Pardon. Oui, bien sûr, il en a vraiment les qualités. Alors, il n'est pas présent sur le Grand Prix E3.
Il sera présent sur Gant-Wevelgem en tant que leader.
Exactement, à l'inverse, il est présent sur Gant-Wevelgem, donc je pense qu'il aura à cœur de montrer qu'il a, parce que là maintenant on l'attend, maintenant qu'il a ce maillot sur les épaules, il a davantage de pression aussi, il sera encore plus scruté, regardé, faut voir s'il arrive à supporter cette pression là, c'est pas évident d'être attendu dans une équipe de culture de la gagne, il y a vraiment que ça qui les intéresse chez Visma, donc à voir. Après, je crois quand même que Van Der Poel, il aura envie d'avoir une des grandes classiques avec l'homme et l'autre champion du monde sur le dos. C'est assez rare, donc il va quand même falloir aller le chercher sur ces courses-là. Ouais. Pogacar n'étant pas là, à voir s'il sera pas, tous contraints. Ce qui peut donner des courses assez différentes aussi s'il y a une ligue anti-Van Der Poel.
Et puis on va pouvoir vérifier ça à travers la France, la dernière grande répétition avant le Tour des Flandres, où Christophe Laporte et Wout Van Aert seront présents. J'attends de voir, en tout cas j'ai hâte de voir ce que ça va donner entre les deux. Et puis il y aura bien sûr le Ronde, prenez bien le rendez-vous le 27 mars 2024 et bien sûr Radio Merguez & Co sera là pour débriefer tout ça, le deuxième monument de la saison. Et puis ensuite on va rapidement parler des résultats du jour. Il y a actuellement quelques courses. Donc il y a la semaine internationale Coppi Bartali en ce moment qui joue, première étape remportée par Marco Brenner de la Tudor Cycling et deuxième étape remportée par Diego Ulissi de chez UAE Team Emirates. Et bien évidemment il y a la Vuelta Catalonia qui actuellement a lieu, victoire de Nick Schultz sur la première étape devant Tadej Pogacar qui annonçait déjà la couleur. Ensuite deuxième étape remportée par Tadej Pogacar devant Mikel Landa, Alexandre Vlasov et un Lenny Martinez très intéressant. Et enfin aujourd'hui victoire de Tadej Pogacar encore une fois devant Mikel Landa et Tiberi Antonio de Bahrain Victorious. Tadej Pogacar qui vraisemblablement, mon Charlie, devrait remporter cette Vuelta à Catalogne sans problème.
Ah oui, c'est clair, enfin, il n'y a pas d'adversaire à sa taille. Landa a essayé un peu de,
Il suit, hein, il suit, hein, Landa. C'est pas
voilà,
mal,
c'est pas mal de voir Landa quand même aussi, même si voilà, il ne sera pas le leader unique sur des courses de 3 semaines. Évidemment, il peut pas avoir ce statut-là. Il est venu pour aider Remco, mais c'est plaisant de le voir résister et bon, à voir comment se déroule la fin de cette épreuve. Marco Brenner, on le souligne pas tellement. Il est pas encore très très connu. Il est jeune, mais c'est un super bon coureur qui a été sorti de DSM, qui était super bon chez les jeunes. Donc voilà, ça se confie avec le temps et coureurs qui ont eu un peu de malchance, ils arrivent à pointer le bout de leur nez. D'un côté, ce sera le cas pour la suite de ces épreuves World Tour et pendant le reste de la saison.
Oui. Et enfin, dernier point résultat, c'est la classique Bruges de Panne avec la victoire de Jesper Philipsen devant Tim Merlier et Danny Van Poppel. Jesper Philipsen qui, attention, sera surveillé. Alors, peut-être pas sur le Tour des Flandres quand même, ça me paraît un petit peu compliqué de voir peut-être gagner ou jouer les premiers rôles, mais attention, il peut jouer les tours de les troubles faites et on verra bien ça, mais ça promet. Petit point pronostic éventuellement, mon Charlie, donc on va peut-être pas se projeter encore pour le Tour des Flandres, mais Gent-Wevelgem et puis le Grand Prix E3. Tu vois qui s'imposer sur ces deux courses?
Ah, compliqué. Moi, je mettrais bien Deli. Je mettrais bien Deli dès demain pour faire la littération.
Ouais.
Enfin, en tout cas, dès le 3, je pense que ça peut être bien. Puis, je vois plutôt. Alors, est-ce que Philipsen, il est sur Gent-Wevelgem ou pas?
Je vais vérifier ça tout de suite. Alors, Philipsen, attends. Non, ça, je suis chez les filles là. Gent-Wevelgem. Non, sur le Grand Prix. Sur le Grand Prix E3, non. Mais sur Wevelgem. Attends, je vais regarder ça. Oui, avec Mathieu Van Der Poel.
Je pense qu'il va y avoir un renvoi d'ascenseur, qu'il aura peut-être sa carte pour Van Vleuten, mais que ce sera tout pour Van Der Poel pour le Tour des Flandres. J'aimerais bien un renvoi d'ascenseur régulier entre les deux pour pouvoir semer la zizanie chez leurs adversaires.
Ouais. Bah moi je vais te rejoindre. Hein. Je vais te rejoindre. Alors peut-être pas pour la gagne, mais je verrai bien quand même Arnaud Delis faire une belle place sur E3, mais moi je verrais bien un Wout van Aert s'imposer, je pense, sur E3, attention, avec la présence de Mathieu Van Der Poel aussi, qui pourrait venir jouer les troubles faites, et puis sur Gent-Wevelgem, bah je verrais bien pas Christophe Laporte, parce que je suis pas sûr de son état, j'aimerais bien, mais ça demande encore confirmation. Mais allez, je verrais bien Mathieu Van Der Poel s'imposer, je pense, sur VV. Bon, eh bien, je pense qu'on aura fait le tour, hein, ce soir. On aura bien débriefé toute l'actualité vélo ensemble. Avant de te remercier, mon cher Charlie, je tiens à faire une grosse dédicace à notre ami Tom, monsieur Thierry Ladan, qui a eu quelques problèmes de connexion. Il fallait s'y attendre, c'était prévu. Il a quand même pu participer au débat. Merci à lui d'avoir été présent. Grosse dédicace à toi et reviens quand tu veux dans Barbecue Vélo. Franchement, merci tout plein d'avoir participé. Et puis merci, mon Charlie, pour ton grand comeback sur Barbecue Vélo. Merci à toi d'avoir été présent, c'est toujours un plaisir de t'avoir dans l'émission. Merci beaucoup d'avoir participé.
Bah merci d'être le taulier pour les tournages, les montages et les lives, voilà.
C'est normal, mais merci. Je ne serais rien sans vous, hein, vous savez, hein, les chroniqueurs RMC, hein, c'est compliqué de faire un monologue d'1h20, et je pense que vous avez bien tenu votre rôle ce soir, malgré les petits problèmes techniques de Thierry. Franchement, merci à tous. Et ben, maintenant à moi de vous remercier d'avoir écouté l'émission, cher chers amis de Barbecue Vélo et de Radio Merguez & Co, merci beaucoup d'avoir été là. Si vous nous écoutez en podcast, merci aussi à vous. Franchement, on serait rien sans vous. Hein. On adore savoir que vous nous écoutez et que vous êtes de plus en plus nombreux au quotidien à nous écouter. Et puis, je vais encore passer une grosse bise à mon ami Julio, Jules, hein, qui actuellement prépare le dossier d'école de journalisme et qui devrait pas tarder à revenir. Donc, grosse bise à toi, mon Julio. On croise les doigts pour toi. Et puis encore, merci à vous, hein, d'avoir été présent. Merci Thierry, merci Charlie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Hein. On a hâte de pouvoir débriefer les classiques flandriennes. Alors, peut-être un débrief du Grand Prix E3 du Grand Prix E3 et de Gent-Wevelgem, peut-être dans la semaine, peut-être un mercredi pour pouvoir faire un petit peu l'état des lieux avant le Tour des Flandres. Donc on vous retiendra au courant, bien sûr. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Twitter, Facebook et puis YouTube. Hein, voilà, c'est là où vous verrez toutes les actualités de la chaîne. Merci à tous encore une fois d'avoir été présents ce soir. Toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. C'était Monsieur Julien Lafilippe pour vous servir, Monsieur Charlie 91 et Thierry Ladan. Bonne soirée à tous et merci encore. Ciao, ciao!